on se pose beaucoup de questions. On sait que beaucoup de familles ont peur des formes héréditaires de la maladie d'Alzheimer. Quel rôle joue véritablement la génétique? Quel facteur de risque? Professeur David Vallon, vous êtes neurologue et directeur du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, professeur au CHU de Rouen. Vous allez nous éclairer sur justement ce rôle que joue la génétique.
Merci bien. Merci d'abord à tous d'être venus. Je suis étonnamment et surpris, mais positivement surpris, parce que vous êtes très nombreux. Il y a même des gens debout qui ne trouvent pas de place pour s'asseoir. Je crois qu'il y a quelques places ici quand même, néanmoins. Mais ça témoigne de l'intérêt de la thématique. Donc, effectivement, comme l'a dit le professeur Dubois auparavant, Rouen a joué un rôle et continue à jouer un rôle. Je parle au passé, mais c'est évidemment pas fini, puisque une des thématiques essentielles qu'a développé Rouen, c'est la génétique. Donc celle dont je vais vous parler. Et les travaux que je vais vous présenter ici sont le fruit d'une historique. La génétique dans la maladie d'Alzheimer, ça commence à peu près dans le début des années 90. Donc, moi, je n'étais pas vraiment là. J'étais né quand même, mais je n'étais pas vraiment dans le circuit de la santé. Avec le docteur Campion et le professeur Didier Hannequin, qui ont petit à petit, famille après famille, étudié, suivi, exploré, vu des branches, etc., compris qu'il se passait des choses et qu'il fallait comprendre pourquoi on avait des formes avec des débuts tardifs, parfois avec des occurrences multiples dans la même famille, mais plutôt tardifs, avec des transmetteurs éventuels d'hérédité, mais qui ne développaient pas les signes, et on reviendra sur ces éléments-là pour les comprendre, et puis d'autres familles, souvent beaucoup plus jeunes, on verra comment, il y avait effectivement à chaque génération la maladie qui s'exprimait de manière inexorable, et donc il y avait quelque chose à comprendre. Et on connaissait déjà plusieurs maladies génétiques, donc l'hypothèse était celle d'identifier une explication génétique à la maladie d'Alzheimer, du moins dans certaines familles. Et puis, une fois qu'on avait trouvé certaines de ces causes, essayer d'élargir au plus grand nombre, parce qu'on va comprendre qu'il n'y a quand même pas effectivement les mêmes proportions. Donc, merci. C'est donc un petit peu de ça dont on va vous parler pour essayer de répondre à la question, est-ce que la maladie d'Alzheimer est génétique? Alors, pour commencer par vous expliquer, il faut rétablir un petit peu comment la génétique est dissociée dans la tête des chercheurs pour qu'ensuite vous puissiez comprendre à quel niveau on se positionne. Globalement, la première étape est de définir si on parle de début tardif ou de début précoce. C'est la même maladie. Dans le cerveau, c'est les mêmes lésions. On parlait un temps de démence présénile et démence sénile, tout ça n'existe plus. La maladie d'Alzheimer, elle est définie par les lésions que vous a présenté le professeur Dubois, quel que soit l'âge. Par contre, on a quand même une importance à aller distinguer les situations avant 65 ans et après 65 ans. Après 65 ans, c'est l'immense majorité des cas, 96%, même 97%. Donc si on prend les 1 million de patients ayant une maladie d'Alzheimer à peu près en France, la grande majorité est dans ce cas de figure-là. Et là-dedans, on a des cas dits sporadiques. Sporadique, c'est-à-dire un individu dans sa famille, isolé, qui atteint de la maladie alors qu'il n'y a pas d'autres cas. Et puis des situations familiales, y compris donc chez les malades avec un début tardif. Et puis, dans ces situations-là, on estime que dans la majorité des cas, c'est multifactoriel. Et là-dedans, jouent notamment les facteurs de risque génétiques. On y reviendra. Et puis, il y a une situation particulière qui est le cas des minorités, donc 4%, pour lequel il existe des cas sporadiques et il existe des situations multifactorielles avec des facteurs de risque. Donc les sujets avant 65 ans, ce n'est pas tous des formes héréditaires, mais parmi eux, il existe une minorité de cas. Donc on estime, c'est probablement moins de 1000 familles, on avait fait cette estimation il y a quelques années, et force est de constater qu'on a probablement moins que 1000 familles, on a peut-être plutôt autour de 500 familles qui ne sont pas toutes identifiées en France à l'heure actuelle, je vous dirai tout à l'heure combien on en a, qui sont avec une transmission autosomique dominante. Ça veut dire qu'il y a une anomalie génétique sur un chromosome non sexuel. Donc, là, en l'occurrence, vous avez les chromosomes 21, 14 et chromosome 1, et dominant, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un des deux chromosomes ait l'anomalie génétique pour qu'on développe les signes de la maladie. On a d'autres situations de maladie autosomique dominante, ça c'en est une. Ces situations-là donc, représentent à peu près 1000 patients pour 500 familles en France. Alors on va se concentrer sur cette situation pour commencer. Et là, comme je vous disais, la particularité, c'est le début des signes très précoces, avant 65 ans. Je vous donnerai un peu plus de détails sur les âges après, mais là, je fais une overview rapide. Chaque génération présente des patients. Donc, vous voyez ici une situation d'une famille hypothétique dans laquelle, au point de départ, il y aurait une grand-mère porteuse d'un chromosome malade. Eh bien, elle développe la maladie. Et puis ensuite, elle a 4 enfants. Et selon la, entre guillemets, loterie de la génétique, c'est-à-dire que chacun des deux parents transmet un chromosome, comme il en suffit d'un pour être malade, eh bien, c'est les chromosomes transmis par la mère qui déterminent si l'individu est porteur et donc sera malade. Et donc, là, j'ai fait une statistique qui correspond à peu près à ce qui est attendu sur des cohortes grandes, c'est-à-dire 1 sur 2, mais évidemment qu'il y a une probabilité, certes faible, plus faible, mais qui existe, que tous aient hérité malheureusement du chromosome, ou à l'inverse, qu'aucun, par chance, n'ait hérité du chromosome. Et ça, ce sont les probabilités les plus faibles. La probabilité la plus importante, c'est que ça soit équilibré à 1 pour 1. Et donc, du coup, bah, vous avez deux individus qui n'ont pas hérité et deux individus qui ont hérité. Et là, ensuite, eh ben, à chaque génération, ça recommence, puisque la situation ici est la même que celle-là. Et là, c'est 1 sur 2. Par contre, dès lors qu'on n'a pas hérité du chromosome porteur de l'anomalie, toute la descendance et tout ce qui suit derrière n'est pas concerné. On revient dans une situation qui est normale. C'est ça, une des particularités de ces formes génétiques. C'est le risque de transmission à la descendance, et donc c'est ça qui permet de justifier le conseil génétique. Et donc ce que font mes collègues généticiens dans le service de génétique clinique du CHU de Rouen, c'est de rencontrer ces familles, d'expliquer ce que je vous explique là, d'apporter des éléments de réponse sur le risque de transmission à la descendance, et ensuite d'offrir la possibilité à ces individus qui, par exemple, n'avaient aucun symptôme, de pouvoir déterminer s'ils sont porteurs ou non porteurs. Mais cette situation n'est possible que, un, s'il y a bien une famille identifiée avec une anomalie dans ces trois gènes, on va revenir. Et puis deuxièmement, s'ils sont asymptomatiques. Parce que s'ils ont des symptômes, ben c'est logiquement moi qui les vois en consultation mémoire pour faire un diagnostic. Alors que s'ils n'ont pas de symptômes, eh bien, ils peuvent demander à connaître leur statut. Okay ? Et donc, quels sont ces trois gènes concernés ? Donc, on a parlé de trois chromosomes. C'est, chaque gène situé sur un des chromosomes, il suffit d'un gène. Hein. Une famille, c'est un gène. On en a trois différents qui ont été identifiés, qui causent tous la maladie d'Alzheimer. Mais une famille, c'est un seul gène. Donc on a le gène APP, le gène de la précinine 1 et le gène de la précinine 2. Et donc, hop, si ça passe à la diapositive d'après, comment se fonctionnent les anomalies qu'on rencontre dans ces gènes ? Les anomalies génétiques, je vais vous les expliquer brièvement, il y en a deux types. Une que vous connaissez généralement assez bien, parce que c'est souvent décrit quand on parle du téléthon, etc. C'est souvent ce qui est expliqué, c'est les anomalies, les mutations ponctuelles. Donc vous avez un code génétique avec un chromosome donné et puis le gène en question. Et puis malheureusement, sur un des nucléotides, ici, là le code c'était A, C, T, G, comme ça, et bien ce nucléotide change et ça devient A, C, G, G. Et ça, paf, c'est ce qui provoque la maladie, puisque ce juste changement, cette faute d'orthographe dans le code génétique, dans une partie qui code pour la protéine, et bien finit par développer la maladie d'Alzheimer année après année. On verra les âges de début juste après. Et ça concerne les trois gènes, précine 1, précine 2, APP. Donc chacun peut, dans une situation très rare, mais existante, porter une anomalie et induire la maladie. Et puis il y a une situation particulière, et je voulais insister dessus parce que là c'est une vraie découverte du CHU de Rouen, en 2006 plus précisément, eh bien, il a été identifié non pas une mutation du gène APP, mais une duplication. Classiquement, ici, dans cette salle, chacun de vos gènes est en deux copies. Si on fait simple. Et pourquoi ? Parce que vous avez été d'une copie de votre père et d'une copie de votre mère. Et bien, en raison de remaniement génétique, ces individus-là n'ont pas que deux copies du gène APP, mais en ont une de plus. Donc sur un chromosome, il y a deux copies, puis sur l'autre chromosome, c'est normal. Et bien, cette trois copies du gène APP, alors que le gène APP dans la séquence est normal, mais cette augmentation du nombre de copies produit du peptide bêta et fait en sorte, malheureusement, que les patients développent la maladie, de même manière que les mutations. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ces trois gènes-là sont tous liés au peptide amyloïde, aux lésions de peptide amyloïde. Les deux premières, ce sont les enzymes qui codent pour des ciseaux, donc qui vont découper la protéine APP, et le découpage produit le peptide bêta. Donc ça, c'est les ciseaux. Et puis ça, c'est ce qui est découpé, la protéine APP, pour amyloïde précurseur protéine, donc en français protéine précurseur amyloïde, eh bien c'est celle qui va donner naissance au peptide bêta. Et donc avec ces trois gènes-là, qui sont les seuls qu'on connaît à l'heure actuelle responsables de forme autosomique dominante, eh bien ces trois sont tous liés à bêta. Donc ce qui est intéressant, parce que par rapport à ce qu'on vous présentait le professeur Dubois auparavant, on voit bien qu'il y a une logique à accéder et à agir sur bêta, du moins dans les formes génétiques que je vous présente ici. Alors, comment ça se distribue sur le plan familial? Eh bien, pour nous, c'est déjà... Alors, on est dans les maladies d'Alzheimer à début précoce, hein, on est toujours dans la même catégorie. Eh bien, c'est déjà pour nous important de savoir s'il y a une histoire familiale positive ou pas. Traduction, s'il y a d'autres antécédents dans la famille. S'il y en a une, eh bien, surtout s'il y a une transmission autosomique dominante, donc c'est-à-dire chaque génération est touchée, on touche autant les hommes que les femmes, on arrive à 77% de formes héréditaires. Donc ça peut paraître très important, bon, on est dans une situation très particulière et très rare, et que nous, en tant que cliniciens, on s'astreint à systématiquement rechercher. Et puis, on a cette situation où il y a des antécédents familiaux, mais c'est moins clair, notamment un antécédent tardif, puisqu'on peut aussi quand même avoir des antécédents tardifs dans la famille. Et là, on voit que tout de suite, ça dégringole de manière très importante, à 2% des cas de figure. Donc probablement, l'hypothèse qu'on fait, c'est que cet individu-là, c'est lié à une forme autosomique dominante, mais par contre, que la grand-mère, c'est pas certain. C'est peut-être ce qu'on appelle, nous, une phénocopie. Donc elle a eu la maladie d'Alzheimer, mais pour d'autres raisons, pour les raisons majoritaires, et puis que lui, peut-être, il est dans une situation particulière d'apparition d'une mutation nouvelle. Et on va y revenir justement après. Puisque quand on n'a pas d'histoire familiale et qu'on a un début très précoce, avant 51 ans, on a 14% de probabilité de trouver une mutation dans ce domaine-là. Et notamment, la moitié de ces mutations, la moitié de ces cas de figure-là, c'est ce qu'on appelle les mutations de novo. C'est-à-dire que ni le père, ni la mère n'est porteur de l'anomalie génétique, mais qu'elle est apparue comme une mutation qui apparaît des fois sur les cellules germinales, c'est les cellules qui vont donner naissance si elles sont fécondées à un enfant, une mutation est apparue. Donc les parents, dans leur cerveau, n'en sont pas porteurs. C'est seulement les cellules germinales, a abouti à la production d'un enfant malade. Et donc là, on a une mutation de nouveau. Peut-être que ce cas de figure-là est aussi un peu équivalent à ça. Et puis, on a aussi des situations de fausse paternité, ça arrive parfois, que nous, on ne détermine pas toujours, mais qui sont possibles, et qui expliquent pourquoi on peut avoir l'impression d'être dans une situation non familiale, parce qu'en fait, papa n'est pas tout à fait papa. Voilà. Et ensuite, pour finir, on avait des cas de figure avec les débuts plus tardifs. Donc cet individu-là démarrait entre 50 et 65 ans, et là, tout de suite, ça diminue de manière beaucoup plus importante. Donc cette situation-là, probablement qu'elle s'explique de manière différente, et on va y revenir. Et donc, la caractéristique clinique de ces formes génétiques héréditaires, c'est la précocité du début des signes. Voilà un petit peu comment ça se répartit. Alors, vous avez là la répartition des différents gènes dont je vous ai parlé. Mutation de la précine 1, c'est la majorité des cas. Ensuite, à peu près équivalent, mutation d'APP et duplication d'APP, puis un peu moins mutation de précine 2. Et puis les âges de début, regardez pour précine 1, la moyenne d'âge de début, c'est 44 ans. Et le plus faible, pour l'instant documenté dans la littérature, et c'est un cas français, rouennais même qui plus est, 24 ans. Donc à 24 ans, la maladie commence. Donc avec une espérance de vie qui est malheureusement à peu près équivalente à celle des sujets plus tardifs, donc un décès vers 35-36 ans. Les débuts peuvent être quand même fort heureusement plus tardifs, jusqu'à 65 ans, mais vous voyez, 50% des patients démarrent avant 50 ans. Pour les autres, c'est un petit peu plus tardif, mais on voit bien que c'est quand même à peu près la même chose. Précine 2, qui est considéré comme le gène avec le début les plus tardifs, c'est en moyenne à 54 ans, allant de 45 à un petit peu plus que 65 ans. Et puis les mutations et les duplications d'APP, on a une moyenne d'âge à 50 ans, et vous voyez les bornes ici. Donc c'est clairement une histoire de début précoce. Alors on est quand même allé regarder, parce qu'on reçoit des prélèvements de famille beaucoup plus larges, et ça correspond bien à ça. Donc on ne s'est pas trompé en ayant un raisonnement tautologique, c'est-à-dire on a recherché ça que chez les malades jeunes, donc forcément on a trouvé que des gens jeunes. Non, on a réussi à la chercher chez les gens plus âgés et on n'en trouve pas. Donc ça c'est la particularité pour la clinique. Donc comment ça marche? Rouen ne fait pas que les prélèvements pour les familles rouennaises. Il le fait pour toute la France. De par l'historique et l'expertise qu'on a développée dans le domaine, on reçoit les prélèvements de l'ensemble du territoire national qui nous envoie dossiers et prélèvements génétiques pour les analyses de ces formes autosomiques dominantes et puis pour les programmes de recherche qu'on mène en parallèle. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, en 2021, c'est 243 familles qui ont déjà été identifiées. Et qu'en plus, il y a une logique à maintenir tout au même endroit parce que du coup, quand on a un nouveau cas qui est identifié, même si la ville est différente, nous, on recoupe les familles et en fait, on évite de refaire une analyse complète. On va d'emblée cibler le gène et la mutation qu'on avait trouvé et on vérifie puisque c'est dans la même branche. Alors que parfois les familles ne se connaissent pas, c'est des familles parfois très étendues, nous, on fait l'économie d'aller faire une recherche tout azimut.
Donc si je comprends bien, professeur Vallon, donc les médecins qui repèrent des formes rares vous adressent ces patients?
Exactement. Les médecins, des constations mémoire CMRR, des constations mémoire de proximité, parfois même certains médecins libéraux. Et alors, du coup, ça nous amène à parler un tout petit peu de recherche. Je vais être assez rapide, mais pour faire le lien avec ce qui a été dit. On est d'accord, monsieur le professeur Dubois nous a expliqué que le problème, c'est un problème de timing. Et donc, tout ce qui a été mené dans les dizaines d'années auparavant, enfin, les 20 dernières années, c'est que les essais étiopathogéniques, donc ceux qui agissent sur la cause, notamment sur le peptide bêta, sont négatifs, probablement parce que les lésions apparaissent plus tôt. Et ça, effectivement, les formes génétiques, et vous rappelez le petit diagramme qui a été montré, l'ont bien montré. Alors pour la petite histoire, c'est effectivement cette étude Diane observationnelle. La France n'en faisait pas partie, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de famille rouennaise dedans. Mais l'étape d'après, que je vais vous présenter, oui. Et donc, on a étudié des individus porteurs et non porteurs, puisque la loterie 1 sur 2, qui étaient descendants d'individus ayant une anomalie génétique et déjà malades. Et en sachant à combien ils sont de leur début théorique, puisque dans ces familles-là, là, je débute assez similaire. Donc si mon père a démarré la maladie à 40 ans et que j'en ai 20, je suis donc théoriquement à moins 20 ans par rapport à mon début théorique si je suis porteur. Et donc ainsi, on a pu essayer de mettre tous les individus sur une échelle chronologique et voir comment les lésions apparaissaient. Et de ce fait, ensuite, envisager la mise en place d'un potentiel traitement. Et c'est là que, de la partie observationnelle, on est passé à la partie thérapeutique. Et c'est là que la France a pris part à l'essai thérapeutique en cours, et Rouen notamment. Et puis là, pour le coup, on a plusieurs familles rouennaises avec des anomalies concernant les trois gènes dont je vous ai parlé, et pour lesquels il y a des individus qui participent à l'essai thérapeutique. Donc là, la stratégie est de prendre des individus, les mêmes qu'ici, sans symptômes, de leur faire les évaluations. Et s'ils étaient âgés, puisque l'essai est dans sa deuxième phase, mais le recrutement est terminé, entre moins 15 ans et plus 10 ans, c'est laisser une petite marge supplémentaire par rapport à leur début théorique, eh bien, ils sont inclus et reçoivent le traitement. Et donc, ça, c'est l'essai Diane-TU. Il y a 4 autres centres, 5 en tout en France, avec Paris, la Petite-Salpêtrière, bien entendu, Lille, Lyon, Toulouse, qui ont pris part à cet essai également. Et on est très contents, ça fonctionne bien. Et d'autres phases sont prévues pour continuer. Alors, tout ça, ça nous explique bien ce qui est la forme autosomique dominante. Le problème, c'est que c'est une forme extrêmement rare et que la problématique étant d'essayer de résoudre l'immense majorité des cas, c'est-à-dire, les 96% qui restent, et puis parmi ceux qui ont un début précoce, ceux pour lesquels il n'y a pas de forme autosomique dominante, puisque ça représente tout de même plusieurs dizaines de milliers de familles, enfin de patients. Et là, l'idée, c'est qu'on rentre non plus dans le domaine des variations causales, qui causent la maladie, mais des variations qui modifient le risque. Alors, ces choses-là, on les connaissait depuis longtemps. Vous avez les études de vrais et de faux jumeaux qui, il y a quelques années, puisqu'on est entre les années 80 et 90, ont permis de comprendre qu'entre des faux jumeaux, donc on dit des jumeaux dizygotes, et des vrais jumeaux, on appelle des jumeaux monozygotes, eh bien, il n'y a pas la même concordance du risque de la maladie. C'est-à-dire que des faux jumeaux, donc qui sont juste nés en même temps, mais qui ont le patrimoine génétique différents, bon, il est lié quand même, c'est les mêmes parents, mais qui n'ont que 50% de leur patrimoine génétique en commun, eh bien, on a un risque entre deux jumeaux d'à peu près 20 à 40%. Alors que si c'est des vrais jumeaux, donc ils ont le même patrimoine génétique, à ce moment-là, le risque monte jusqu'à 60%, et même ce chiffre-là a été réévalué récemment, on monte jusqu'à même 70%. Et donc, du coup, ça montre bien qu'il y a un intérêt à s'intéresser à la génétique, parce que, généralement, qu'on soit vrai ou faux jumeaux, on a à peu près le même parcours de vie. C'est-à-dire qu'au moins, les premières années sont assez équivalentes. Il est rare qu'un parent décide qu'un enfant, un des deux jumeaux, ira à l'école, ira loin dans les études, et puis l'autre, pas du tout. Donc, du coup, ces éléments-là sont corrélés. Et donc, c'est ce qui différencie, c'est le patrimoine génétique. Et donc, c'était bien pour essayer de comprendre le rationnel, mais ça ne donnait pas beaucoup d'éléments de réponse. Et il a été conçu l'idée qu'on pouvait avoir dans notre patrimoine génétique des variations qui, peut-être, ne sont pas la cause, mais modulent ce risque de développer la maladie, et peut-être même modulent l'âge à laquelle la maladie apparaît. Et le premier d'entre eux qui a été découvert, historiquement, c'est la variation, la version E4 ou Epsilon4 du gène de l'APOE. Donc APOE, c'est un gène, comme dont je vous ai parlé, mais celui-là, il ne comporte pas de mutation qui cause, mais il comporte des variations, et on en dénombre trois différentes. Alors là, je vous montre à l'angiologique, on viendra après les différences. Et vous voyez qu'ici, cet individu-là a une maladie d'Alzheimer qui a démarré quand même assez jeune, mais à la limite de la borne qu'on s'est fixée et qui est vu en constatation à l'âge de 70 ans. Lui, il est porteur de deux variations E4. Oui, parce que comme pour les autres gènes, hein, comme je vous ai expliqué, on a toujours deux copies, un qui vient de chaque parent. Et donc lui, il avait probablement un risque majeur et un début un peu plus précoce. Et puis ensuite, on a ces deux individus-là, les deux parents, dont l'un avait été 3-4, l'autre était 3-4, et donc le E4, E4 ici, c'est ceux qui ont été transmis à la fille présente ici. Et là, les choses sont un petit peu intéressantes, parce que alors que le génotype est le même, eh bien, l'un a développé la maladie et pas l'autre. Ça, on y reviendra. Mais pour comprendre ce que c'est que ces variantes de l'APOE, eh bien, il faut savoir qu'il y a trois variantes différentes, E3, E4 et E2, et que chacun a un risque différent par rapport à la maladie d'Alzheimer. Le plus fréquent, et celui qu'on considère étant la base, puisqu'il faut un référentiel, c'est E3-E3. Donc si on considère que E3-E3, c'est le risque égal à 1, ça ne veut pas forcément dire que quand on est E3-E3, on n'a pas de risque. Mais si on considère ça comme étant la base, puisque c'est le plus fréquent, eh bien le fait d'être porteur d'un allèle E4 augmente de multiplier par 3 à multiplier par 4 le risque, et le fait d'en avoir 2 multiplie ce risque par 10. Pas forcément une bonne nouvelle, mais on voit bien quand on multiplie un risque, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir la maladie. Et puis quand on a les allèles E2, qui sont beaucoup plus rares, eh bien en fait on divise son risque. On réduit le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer en ayant un allèle E2. Alors après il y a une situation qui est rarissime, hein, qui est très difficile à identifier, c'est l'allèle E4 et E2 en même temps, où globalement ça se compense un peu, mais de toute façon c'est pas le plus intéressant parce que c'est une situation qui est plutôt rare. Et à quoi ça correspond en termes de risque tout au long de la vie? Donc là c'est valable pour n'importe qui ici. Eh bien, si vous êtes E3-E3, donc c'est la situation la plus fréquente, vous avez une courbe de risque suivante. Ah, c'est dommage, ça a coupé les âges qui étaient en dessous. Bon, là, ça commence à 65 ans, et là, ça finit à 90 ans, je crois. Voilà, et donc vous avez des tranches tous les 5 ans. Donc, et vous voyez, votre risque qui augmente, et on va dire qu'à 90 ans, votre risque, il est entre 10 et 20 d'avoir la maladie d'Alzheimer, un risque cumulé tout au long de la vie. Si vous avez un allèle, à 85-90 ans, on arrive à 30%. Et puis là, si vous en avez deux, E4-E4, eh bien le risque cumulé tout au long de la vie, il est dès l'âge de 75-80 ans, il est déjà de 1 sur 2. Donc avoir deux allèles E4-E4, donc deux variantes E4, c'est un risque sur deux à 75-80 ans. Et sachant que ce n'est pas une espérance de vie totalement illusoire. Donc vous voyez bien l'importance de ce facteur de risque. Mais si on voit le verre à moitié plein, eh bien du coup c'est aussi 1 sur 2 qui n'est pas concerné par la maladie. Et c'est ça un facteur de risque. Un facteur de risque, ça augmente le risque, ou ça le diminue, comme E2 par exemple, mais ça n'explique pas à lui seul la situation. Et donc il va y avoir des situations qui sont celles d'individus porteurs mais qui ne sont pas malades, ou d'individus malades qui ne sont pas porteurs. Hein, ceux qui sont là-dedans, ils sont potentiellement malades, mais ils n'ont aucun allèle E4. Okay ? Et donc, je reviens à mon petit arbre généalogique antérieur. On a donc des individus ici qui sont tous les deux E3, E4, donc ils ont théoriquement le même risque génétique. Pourtant, l'un a développé des symptômes et pas l'autre. Donc il doit y avoir quelque chose d'autre qui explique. Et en fait, c'est là qu'on fait intervenir d'autres facteurs. Donc je ne vais pas forcément tous vous les lister aujourd'hui, mais vous dire que le travail du CHU de Rouen, c'est d'essayer d'identifier les autres facteurs qui permettraient d'expliquer pourquoi est-ce que cet individu-là a développé sa maladie autour de 75 ans et lui n'en a jamais été concerné, et je ne l'ai pas barré parce que la maman en question est encore en vie et indemne de tout symptôme, alors qu'elle est quand même porteur d'un facteur de risque. Et donc, il y en a un, c'est sur le 1 ici que je rajoute, mais en fait, on en a plusieurs et on en découvre au fur et à mesure. Alors, on a découvert aussi, alors TREM2, on a nous confirmé que c'était vrai, une équipe anglaise et islandaise l'avait découvert. On a contribué également à l'identification d'ABCA7. Et puis très récemment, on a une publication en cours sur un nouveau gène, ADAM10, toujours dans cette idée d'essayer d'en trouver le maximum. Et au final, tous ces gènes-là, on les a tous. Hein, ce ne sont pas des gènes qui sont apparus chez des gens, on les a tous. Par contre, certains ont des variations qui augmentent le risque de la maladie. Et puis, dans l'immense majorité des cas, la majorité des cas, on n'a pas ces variations-là. Et donc, c'est la résultante et la combinaison de ces différents facteurs qui fait qu'on va avoir un risque plus important ou moins important. Et ça, du coup, sur le même graphique que je vous ai montré auparavant, maintenant, on a intégré SORL1 en plus d'APOE4. Et vous voyez que là, l'effet est plus le même. On est parti du même âge à 65 ans, on aurait dû partir de plus tôt, parce que vous voyez qu'on est quasiment déjà au plafond. Là, c'est 100% de risque. Avec APOE4 plus SORL1, dès 66 ans, on est déjà à 100%. Là où l'APOE4 était ici, Et là, vous avez d'autres facteurs de risque. Vous voyez bien que du coup, en fait, l'accumulation de ces facteurs de risque va commencer à peser énormément dans notre prédiction potentielle du risque. Et donc ça, c'est probablement des choses qui vont être intégrées dans les schémas futurs de prédire le risque chez un individu. Donc en conclusion, la génétique d'un malade d'Alzheimer, elle distingue deux cas de figure. Les formes héréditaires, avec les mutations responsables, où là, on ne parle pas de facteurs de risque. J'ai la mutation, je serai malade. Je n'ai pas la mutation, je ne serai pas concerné par la forme héréditaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'à l'âge de 85 ans, je serai protégé de la maladie. Non, je reviens dans la situation d'un individu de la population générale. Et puis, il y a les formes avec des facteurs de risque, dont certains ont déjà été identifiés. Il en reste d'autres à trouver. Il reste du travail pour l'équipe de Rouen, on est bien content d'ailleurs. Et ensuite, comprendre, parce qu'une fois qu'on aura trouvé chacun d'entre eux, parce que pour l'instant, c'est ce qu'on fait, on essaie de les identifier, il faut étudier la résultante d'un, deux, de trois, de quatre, et ainsi de suite. Et de voir comment on prédit le risque chez cette personne-là, parce que c'est ça l'important. C'est de dire, moi je suis porteur de tel facteur de risque, quel est mon risque? Ça, à l'heure actuelle, on ne sait pas le faire. C'est la raison pour laquelle toutes les situations avec facteurs de risque génétique ne permettent pas un conseil génétique. On ne voit pas les familles en service de génétique pour leur dire, attendez, je vais vous déterminer quel est votre statut APOE, est-ce que vous êtes porteur sol 1 ou TREM 2, etc. Ça, on ne le fait pas. Parce que comme c'est que du facteur de risque, on peut juste dire à quelqu'un, ah oui, vous avez un risque augmenté. Oui, mais est-ce que je serai malade à 70 ans? Ça, je ne peux pas vous dire. Donc, ce n'est pas une réponse qui est valable, qui est médicalement acceptable. Donc, pour l'instant, il est décidé de ne pas rendre les facteurs de risque génétique, du moins en présymptomatique. C'est différent pour les formes héréditaires. Et je crois que c'est tout.
Merci beaucoup. Merci, docteur Vallon.